Le grand oral des grandes gueules.
Et nous accueillons l'épidémiologiste Martin Blachier. Bonjour, bonjour, monsieur Blachier.
Il y avait ce matin un nouveau conseil de défense sanitaire. Le Premier ministre devrait d'ailleurs prendre la parole à la mi-journée. On va peut-être alléger le couvre-feu, peut-être aussi faire des annonces sur le masque à l'extérieur. Sur ces deux sujets, le masque à l'extérieur et le couvre-feu, vous pensez qu'effectivement il est temps d'alléger ?
Oui, absolument. Je pense que ces mesures sont un peu, comme je disais, anachroniques par rapport au calendrier de déconfinement. Aujourd'hui, on peut manger en restaurant en intérieur. Il y a plein comme ça d'étapes de déconfinement qui ont été passées. Or, on continue de porter le masque en extérieur, ce qui est une mesure discutable sur le plan scientifique et qui est vraiment au bout de bout des mesures barrières. Et puis le couvre-feu à 23h, c'est pareil. Je pense que c'est une mesure qui est devenue dépassée par rapport à l'étape de déconfinement dans laquelle on est. Et surtout, l'épidémie qui est vraiment très basse aujourd'hui.
Ça veut dire que c'est fini l'épidémie, c'est terminé ?
Non, pas du tout. L'épidémie n'est pas finie et d'ailleurs, elle pourrait repartir même aujourd'hui si jamais on faisait vraiment n'importe quoi, qu'on organisait des grands événements dans des espaces clos. C'est pas complètement fini. Il y a un point d'équilibre, qui est un point d'équilibre d'été qui est assez bas. Ça veut dire qu'on peut ne pas faire repartir l'épidémie en vivant à peu près normalement, mais on peut pas faire n'importe quoi non plus. Et surtout, elle est pas finie parce qu'en septembre-octobre, elle va revenir.
Elle va revenir.
Pour l'instant,
il y aura donc une autre vague, comme le dit d'ailleurs le professeur Delfrécy, à la rentrée.
Oui, il est très très peu probable qu'il n'y ait pas d'autres vagues. Après, la question, c'est est-ce qu'il y aura des hospitalisations avec cette nouvelle vague de la rentrée. Mais en tout cas, il y aura de la recirculation virale, puisque cette immunité collective, avec 90% des plus de 12 ans qui sont vaccinés, personne n'y croit, aucun pays n'y a atteint. Et tous les pays qui vaccinent aujourd'hui plafonnent à 60-65% d'immunité, donc on n'aura pas les 90%.
Mais là, on a le variant Delta. Alors, on a un petit cluster là du côté d'Évry-Courcouronnes. On voit qu'il a l'air de s'imposer, je mets des guillemets, dans les Landes. Ça clignote en rouge. Est-ce qu'on doit s'inquiéter?
Vous savez, pendant tout l'été de l'année dernière, il y a eu des clusters comme ça qui sont apparus et qui ont été relativement contrôlés. Contrôler des clusters pendant l'été, c'est pas extrêmement difficile. Mais c'est vrai que ça veut dire que ce variant Delta va se diffuser sur le territoire et que quand l'automne va revenir, c'est lui qui va prendre la main et c'est lui qui occasionnera probablement la recirculation virale automnale.
Mais ça veut dire, attendez, quatrième vague à la rentrée. Mais on va pas vivre ce qu'on a vécu avant. Même si on n'est pas face à une immunité collective voulue, on aura quand même beaucoup de Français et adultes vaccinés. Donc on va pas vivre ce qu'on a vécu auparavant.
On va revivre quelque chose qui ressemble. Si on n'a pas vacciné toute notre population vulnérable, on va vivre quelque chose qui ressemble.
En termes de confinement et compagnie.
Je sais pas. En termes de confinement, parce que si jamais on a une circulation virale très importante et qu'on commence à avoir les hospitalisations qui montent, je pense que le gouvernement va bouger sur l'obligation vaccinale, sur le test. Donc on revivra pas forcément la même chose, mais ce sera quand même quelque chose qui ressemblera. Vous savez, on pense toujours qu'on revivra pas la même chose, et puis quand les services commencent à se remplir, finalement on se rend compte qu'il se passe exactement ce qui s'était passé les vagues précédentes. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait en avoir définitivement terminé avec cette crise.
Comment ?
On a les doses. Donc, si toutes les populations fragiles étaient vaccinées et qu'on les obligeait à se faire vacciner, en deux semaines, on peut terminer la Covid.
Donc,
si on
imposait la vaccination à ces 20% de Français qui n'en veulent pas, ça serait terminé.
Ce serait terminé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vit strictement normalement. Ça veut dire qu'on est certain que les enfants vont porter le masque à la rentrée. Ça veut dire que toutes les entreprises sont tranquilles pour prévoir leurs plans sur les prochains mois. Ça veut dire, en fait, que la vie change. Donc, c'est incroyable. En fait, c'est une question de maturation psychologique. Moi, je pense qu'on va y arriver.
À
l'obligation vaccinale. Je pense qu'il faut qu'on prenne la décision avant le 1er ou le 15 août, parce qu'il faut qu'on ait suffisamment de temps pour avoir vacciné toute cette population vulnérable avant la reprise de l'automne. Mais la situation est dans notre main. Donc ça veut dire que si on a des hospitalisations à l'automne, c'est parce qu'on a bien voulu qu'il y ait des hospitalisations à l'automne et qu'on n'a pas eu le courage de prendre la décision qui peut empêcher ces hospitalisations.
C'est une décision politique, ça.
Parce que vous pensez que dans une perspective de campagne électorale, un gouvernement va prendre ce risque-là d'imposer l'obligation vaccinale, ce qui n'existe dans aucun pays. C'est-à-dire que dans certains pays, il y a des populations particulières, les fonctionnaires ou certains, et encore certaines niches de professionnels où il y a eu une obligation vaccinale dans certains pays, mais il n'y a aucun pays au monde qui a, pour l'instant hein, en tout cas, imposé sur une partie de la population une obligation vaccinale. Et vous pensez que la France, qui déjà a eu du mal avec les masques et compagnie, vous pensez que la France aurait ce que vous appelez du courage ? Je ne sais pas si les Français seraient prêts à l'accepter. Hein.
Je dis pas que c'est faisable, je dis pas qu'ils le feront, je dis que c'est ce qu'il faut faire. Après, politiquement, mais je pense que ce gouvernement est en capacité de le faire et peut le faire, parce que en général, ils comprennent assez bien les phénomènes. Et je pense qu'une vague d'hospitalisation en septembre-octobre, c'est pas non plus bon pour une campagne électorale. D'autant qu'il y a certains pays qui auront plus vacciné leur population vulnérable et qui auront pas ce problème. L'Israël a vacciné plus de 95% de sa population vulnérable. Donc eux, ils sont relativement à l'abri, par exemple.
Ils auront peut-être aussi le soutien, les gens du gouvernement, de ceux qui se sont vaccinés et qui n'ont pas envie de revivre ce qu'on a vécu un an auparavant.
Mais vous savez, en Israël, ils l'ont fait sans obligation vaccinale parce que aussi, la façon dont le déconfinement a été promis, annoncé, il s'est vraiment réalisé. Et quand des gens qui sont vaccinés, on leur dit oui, tu peux enlever le masque et oui, tu peux revivre normalement, ça donne plus envie que quand en France on vous dit oui, mais même vacciné, il faudra continuer le masque, pour continuer à être assis.
Ça a
une influence. Excuse-moi, quand t'es vacciné et que finalement tu dois vivre la même chose que si tu l'étais pas, en Israël, t'es vacciné, tu peux vivre librement. Ça fait une différence.
Depuis le début, on a eu le débat tout à l'heure. Moi, je pense que ça a été idéologique. Et j'avais une question, parce qu'on a eu un débat, j'avais une question à vous poser. C'est 20% de plafond de verre, c'est 20% de personnes non vaccinées. Dans le cas d'une quatrième vague avec ce variant Delta, suffirait-elle, si un certain pourcentage était hospitalisé, suffirait-elle à emboliser encore
largement, largement. On a fait une première vague en mars 2020 avec 4,4% de la population vulnérable. Donc, il suffit de pas beaucoup de personnes pour emboliser les services de réanimation. Moi, il y a quelqu'un qui est en ALD. Vous savez, les ALD, c'est ces gens qui sont pris en charge à 100% parce qu'ils ont des pathologies chroniques. Et il m'a dit, moi, je trouve que les gens qui sont sous ALD et qui sont pris en charge à 100% par le système d'assurance maladie, on devrait leur obliger à se faire vacciner. Moi, je me suis fait vacciner. Comment on peut imaginer qu'on a un système qui soit aussi généreux, où on couvre à 100% de tous les risques, on prend en charge tous les soins et qui refuse de se faire vacciner? À un moment, il y a quand même un contrat social. Quand il y a autant de solidarité dans un pays, on peut demander plus que dans des pays comme aux États-Unis où vous avez des assurances privées. Et d'ailleurs, j'ai posé la question au professeur Bréchaud il y a deux jours, et je lui disais, mais qu'est-ce qu'ils font les assureurs privés américains? Parce qu'à mon avis, la Kaiser, Medicare, Medicaid, ils vont pas attendre la vague automnale pour faire signer des choses aux gens, comme quoi si jamais ils ne se vaccinent pas, ils vont pas être pris en charge. Donc ça va être fait différemment aux États-Unis, probablement avec le système privé. Nous, va falloir qu'on trouve notre système avec nos systèmes solidaires d'assurance maladie, mais va falloir bouger cet été. Il est intolérable d'imaginer qu'on redemande à tous les enfants de porter des masques, de faire des demi-jauges dans les collèges et dans les lycées, de réavoir des hospitalisations en pédopsychiatrie, d'avoir des gens à l'hôpital avec les soignants qui sont épuisés, alors que cet été, on peut vacciner cette population-là.
Voilà la solution, là.
Maxime. Mais dans les fameux 20% aussi qui tardent à se faire vacciner, il y en a qui sont tolérants, on va dire. Il y a d'autres qui sont un peu complotistes, d'autres qui sont nourris quand même avec des discours assez contradictoires. Vous avez participé quand même à ces contradictions qu'on a pu voir en plateau entre les médecins. Est-ce que vous pensez que, justement, ces discussions, parfois ces désaccords qui étaient exposés sur tous les plateaux, ont pu quand même avoir un rôle sur des gens aujourd'hui qui sont hésitants?
Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Je vais pas me culpabiliser d'être responsable de gens qui veulent pas se faire vacciner, alors que ça fait un an et demi que je dis qu'il faut se faire vacciner, qu'il faut y aller, que je suis moi-même vacciné, que tous les gens autour de moi sont vaccinés. Donc, faut pas non plus exagérer. On va pas déresponsabiliser les gens à ce point-là, que maintenant dire que les pauvres, ils veulent pas se faire vacciner parce qu'il y a eu de la confusion entre les experts, parce qu'il y avait des discussions scientifiques. Là, c'est un peu une inversion des valeurs, quand même.
Non, mais c'est-à-dire qu'on a quand même vu des médecins, ou même, pas forcément des médecins, mais même les hésitations au début, ou même le fait que certains ne croyaient pas forcément à ce qu'on puisse sortir un vaccin aussitôt, il y en a qui ont porté ce discours en disant, écoutez, un vaccin, on a rarement vu ça en aussi peu de temps, et il faut s'en féliciter.
Et ils se sont ravisés depuis.
Oui, voilà, mais est-ce que vous ne pensez pas que ces hésitations et ces discours, qui, vous l'avez même vous critiqué, et certains médecins qui étaient aussi péremptoires, est-ce que vous ne pensez pas que ce discours-là, au début, a pu quand même ralentir des gens qui disaient, je ne comprends pas pourquoi il y a quelques mois encore, on nous disait que c'était faux? Ça peut peut-être jouer aussi, un ton aussi sûr.
Non, je pense que de toute façon, il y aurait eu une base comme dans tous les pays. D'ailleurs, on est un des pays au monde aujourd'hui, il y a le moins de réticents à la vaccination. On a des taux de vaccination de 80% chez les plus âgés, donc ça existe dans tous les pays. Donc je ne pense pas que ce soit la controverse qui a eu lieu en France. Oui. Moi, par contre, il y a une chose qui m'a choqué, c'est quand Alain Fischer, qui est quand même monsieur vaccin, dit qu'il serait indécent de discuter d'une obligation vaccinale. Alors là, je pense que vraiment, il n'a rien compris de dire ça dans un journal comme le JDD en parlant de la campagne vaccinale. Dans le même article, il dit qu'il faut qu'on vaccine 90% de la population des plus de 12 ans, et en même temps, il dit qu'il serait indécent de discuter de l'obligation vaccinale. Qu'est-ce qui est indécent? Est-ce que c'est plus indécent de faire des confinements stricts où on peut pas sortir de chez soi, où il faut une attestation? Est-ce qu'il est plus indécent d'empêcher des enfants d'aller à l'école et qu'on ait des suicides chez les jeunes et les ados? Est-ce que ça, c'est indécent? Ou est-ce que ce qui est indécent, c'est de discuter de l'obligation vaccinale dans une population vulnérable pour laquelle l'intégralité du pays s'est mise en pause? Je rappelle aussi, je fais un peu de provocation, mais que la plupart des gens qui sont dans cette population fragile sont quand même des gens qui sont retraités, donc qui touchent des retraites, qui sont payés par les gens qui travaillent. Et si on veut que les gens travaillent, il ne faut pas qu'il y ait la menace Covid. Donc au bout d'un moment, il faut que tout le monde se mette un petit peu à sa place et prenne ses responsabilités. Donc il n'y a rien d'indécent à discuter l'obligation vaccinale dans une population vulnérable.
Et pour aller dans votre sens, quand j'entends des jeunes ados qui se font vacciner et qui ont été interrogés, notamment sur BFM TV, et qui disent « bah oui, moi je fais ça parce que comme ça, je protège les autres », je me dis qu'ils donnent une leçon d'altruisme que certains adultes devraient quand même entendre.
Non mais absolument, mais c'est surtout, je pense qu'il faut benchmarker un petit peu tout ce qu'on a fait. C'est-à-dire comment on peut ne pas vouloir discuter de l'obligation vaccinale alors qu'on a fait des confinements. Sur des confinements stricts, vous sortiez de chez vous,
ça, c'est
vous pouviez avoir jusqu'à 1000 euros d'amende si c'était la deuxième fois et des choses assez graves. Donc je ne comprends pas comment entre l'obligation vaccinale avec un vaccin pour ces populations-là, la balance bénéfice-risque, elle est indiscutable. Et en plus, les quelques événements désirables qu'on a notés, c'est chez les populations jeunes. Donc je veux dire, la décision, elle est déjà prise pour moi. Moralement, elle est déjà prise. Après, c'est vrai qu'il y a le côté électoral, mais je le dis aux gens qui sont au pouvoir, c'est beaucoup plus, à mon avis, toxique d'avoir une vague hospitalière à l'automne que de discuter l'obligation vaccinale. Et je pense, à mon avis, ils sont déjà en train de réfléchir aux différents dispositifs qui pourraient permettre de contraindre les gens à se vacciner, en particulier quand ils sont sous ALD et qui font partie de ces populations.
Bah, vous qui parlez directement au président de la République, vous alliez y avoir droit, donc vous lui avez soufflé. En fait, le plan qui va être annoncé, c'est le plan Blachier.
Voilà, exactement. Non, pas du tout, mais hier, je participais à une discussion où il y avait le directeur médical de l'OMS et qui lui aussi était sur cette ligne-là en disant qu'il n'était absolument pas indécent de proposer l'obligation vaccinale en partie pour ces populations-là. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que les gouvernements, ils ont tellement peur dans cette crise qu'ils se regardent tous les uns les autres. Et c'est très difficile d'être le premier à parler d'obligation vaccinale. Mais quand même, la spécificité du système français de santé fait qu'on peut être les premiers au moins
De manière pragmatique, puisqu'on parle de la responsabilité des autorités publiques sanitaires. Vous comprenez les contraintes autour de la fête de la musique et que du coup soit pour les maires dans l'obligation d'annuler, on a un protocole trop strict, faut être assis, faut être à 1 mètre 50 les uns des autres, c'est pas possible. Vous comprenez ça ou pas?
Non, je comprends pas, comme je comprends pas ces jauges dans les stades de foot. Hier, je regardais le match France-Allemagne, c'est complètement incompréhensible.
Vous avez vu qu'en Hongrie, il y avait 65 000 personnes
Et il se passera rien pour le Portugal. Il se passera rien. On sait que les circonstances d'un match de foot à l'extérieur comme ça sont assez peu à risque. En revanche, c'est vrai que ce qui se passe sur les clubs, on peut difficilement rouvrir les clubs de nuit sans un pass sanitaire. Donc il faut aussi raison garder. Mais il y a plein de choses qui sont encore incohérentes. Et encore une fois, je vous dis, toutes ces mesures restrictives, maintenant, elles sonnent plus pareilles dans mon esprit. Parce qu'on a la solution. Oui. C'est-à-dire que chaque mesure qu'on vit aujourd'hui, on pourrait ne pas la vivre parce qu'on a les doses de vaccins. Et aujourd'hui, on ouvre aux adolescents simplement parce qu'on n'arrive plus à remplir les créneaux de vaccination. Il n'y a pas de stratégie derrière. C'est juste qu'on se dit, on commence à avoir des créneaux qui se libèrent. Du coup, il faut que tout le monde puisse se vacciner. Et on invente derrière une théorie.
Dit, c'est parce qu'il y a 20% de vieux qui ne se font pas vacciner que les gamins sont obligés d'y aller.
C'est quoi la théorie qu'on invente?
Non, mais on invente une théorie. C'est la théorie, faut que les adolescents se vaccinent pour atteindre cette immunité collective. Mmh. Comme si on avait anticipé d'ouvrir aux adolescents dans une stratégie quelconque. Non, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Si on a des créneaux de libre, du coup on veut absolument utiliser tous nos créneaux, et au lieu d'aller un peu sur la contrainte, parce qu'on juge que c'est un peu trop tôt effectivement, qu'on est plutôt dans une espèce d'euphorie, je pense que pour annoncer ce genre de choses on a plutôt prévu de le faire au milieu de l'été, ah, du coup on invente une grande stratégie des adolescents.
Mais Martin, d'autant plus que vacciner nos enfants ne règle pas le problème des réanimations encombrées, puisque ce ne sont pas les enfants qui encombrent les services hospitaliers.
Bah absolument. En fait, il y a le bénéfice individuel et il y a le bénéfice collectif. La question à se poser, c'est est-ce que le bénéfice collectif, il est réaliste? 90% des experts interrogés, notamment les Américains, disent non.
Non.
On n'arrivera pas à avoir cette immunité collective en septembre-octobre. Donc on va sur le bénéfice individuel. Le bénéfice individuel pour les adolescents, effectivement, il est très très faible. Mmh. Sauf pour quelques sous-groupes d'adolescents qui effectivement ont des pathologies qui sont déjà dans le scope. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire ne sert pas à grand-chose si on considère qu'on n'aura pas l'immunité collective en septembre-octobre, ce que je pense qu'on n'aura pas.
Et c'est quoi l'immunité collective? C'est combien? 80-90%? C'est quoi?
Bah, ce que dit Alain Fischer, c'est que c'est 90% avec ce variant Delta qui sera probablement responsable de la quatrième vague des 12-100 ans. Voilà. Et en Israël, on est à 65%. Aux États-Unis, on est à 65%. En Grande-Bretagne, on est à 65%. Donc tous les pays qui ont eu Open Vaccin
sont à 65%. Ouais. Donc il est très probable que nous on soit à 65%. Et d'ailleurs, c'est la trajectoire qu'on a, c'est-à-dire qu'on va avoir 30% de gens qui ne vont pas y aller, qui disent dans les enquêtes peut-être que j'irai, mais qui en septembre n'y seront pas encore allés.
Étienne ?
Oui, j'ai vu que en fait quand on avait chopé le Covid, là maintenant, on était à peu près sûr que l'immunité était solide et longue. Et est-ce que avant la deuxième dose, il y a systématiquement un test qui est fait? Parce que j'ai vu que c'était pas toujours et pas bah systématique.
Non, t'as pas deux doses hein, quand t'as eu le Covid.
Non, mais des gens, il y a des tas de gens qui ignorent qu'ils ont eu le Covid. Alors, et donc
il y a des expérimentations qui sont faites dans différents centres où avant la première dose, on fait un petit test rapide sérologique pour voir si on a encore des anticorps. Mais c'est pas extrêmement sensible. Il y a probablement des gens qui ont déjà eu le Covid et qui sont quand même négatifs avec ces tests et qui n'ont pas d'anticorps. Donc la plupart des gens auront deux doses et il n'y a pas systématiquement des tests qui sont faits. Il y a des expérimentations, mais je suis pas sûr que ce soit extrêmement sensible.
Mais ça ne présente pas de risque, le fait d'avoir été immunisé par...
Non, et d'avoir deux doses, non.
Voilà.
D'accord. Le variant Delta ou Indien, maintenant on dit Delta, il ne faut plus stigmatiser.
Parce que pour les Indiens, je trouve que c'est bien.
Semble-t-il en Grande-Bretagne, il va le devenir en France aussi.
Oui. C'est un variant qui est plus fort que les autres. Et donc, il va dominer. Donc, et ces variants prennent de l'ampleur quand il y a des résurgences épidémiques. Donc, quand il y aura une résurgence épidémique qui se fera probablement à l'automne en France, c'est ce variant Delta qui va remonter. Et ça veut dire que la reprise sera un peu plus nerveuse que si jamais c'était pas le variant Delta qu'il faisait. Petit mot sur le Royaume-Uni, parce qu'on parle énormément du Royaume-Uni et on dit bah oui, on parle de l'été, mais il y a quand même une résurgence au Royaume-Uni.
Ils ont repoussé le calendrier.
Alors, il y a plusieurs faits. Déjà, au Royaume-Uni, ils ont beaucoup vacciné avec l'AstraZeneca, qui est beaucoup moins efficace sur la transmission que le Pfizer qu'on utilise beaucoup en France. Au Royaume-Uni, pour l'instant, on a une résurgence des contaminations, pas encore des hospitalisations, et ça se fait essentiellement dans des villes qui sont peu vaccinées, dans des communautés indiennes. Donc encore une fois, c'est pareil, c'est pas un grand pays, c'est aussi parfois des petits phénomènes locaux.
Des gens qui sont pas vaccinés.
Et des gens qui sont pas vaccinés. Et c'est aussi, on aura aussi probablement des poches de gens non vaccinés en France où il y aura des résurgences. Et dans ces poches-là, il faudra que les fragiles aient été vaccinés.
Merci Martin Blachier, épidémiologiste. Merci d'être passé par le Grand Oral des GG.